Alors ce soir, toujours Berlin, dans une ambiance dure et post-industrielle. Oui, la vie était dure, l'angoisse omniprésente et l'énergie intense. Malgré tout, un ciel plombé avec des trouées de lumière incandescente. Everything Counts, c'était le groupe Depeche Mode en 1983. Alors quel rapport avec Berlin, me demanderez-vous? Eh bien un rapport très étroit. Puisque 4 ans environ après sa naissance, ce groupe, qui avait été fondé par de très jeunes gens dans une ville nouvelle de la côte sud-est de l'Angleterre, vivait une métamorphose. Après le départ de son premier compositeur, l'excellent Vince Clarke, qui allait créer le duo Yazoo, puis un autre duo Erasure, eh bien un autre membre du groupe, Martin Gore, allait se charger de fournir de nouvelles chansons au groupe. Ce petit homme, au visage triste et à l'allure timide, a entraîné le son électropop de Depeche Mode vers d'autres climats plus mélancoliques, voire sombres et même très durs. En 1983, Martin Gore a découvert avec fascination, lors d'un concert, les sonorités dites industrielles, le mot est flou, d'un groupe berlinois, Einstürzen und Neubauten, un nom qui signifie « des immeubles d'après-guerre qui s'effondrent ». Un nom fort bien choisi, puisque ces musiciens fabriquaient des sons à partir de matériaux de récupération sur des chantiers comme des plaques de métal. Ils n'hésitaient pas non plus à mêler à leur musique le son d'instruments de chantier ou même de mettre le feu à des objets pour enregistrer le bruit de leur combustion. Il était même arrivé à Einstürzen und Neubauten, l'année 1983 à Oslo, d'attaquer la scène au moyen d'un marteau-piqueur. Et oui. Bref, Martin Gore est captivé par ses procédés extrêmes. Il convainc ses camarades de Depeche Mode de mêler à leurs chansons électropop des bruits de ce genre qui donnent l'impression que tous les rouages de la vie urbaine sont sensibles comme mis à nu. Et Martin Gore va plus loin. Il joint pour ainsi dire l'acte à la parole, il part vivre à Berlin-Ouest où il découvre une société underground qui le happe. Et dans ce Berlin-là, il n'y a pas beaucoup d'argent et presque rien à consommer. Alors on est disponible pour une vie en marge, le centre n'ayant rien à offrir. Les squats, les soirées, les clubs de fortune sont le lieu d'expériences collectives extrêmes, d'expériences limites. Martin Gore découvre aussi le monde du fétichisme et du sadomasochisme. C'est l'époque où il lui arrive de monter sur scène en mini-jupe de cuir et une sorte de harnais. En tout cas, c'est en partie ce tournant, cette découverte de la marginalité des squats et de l'underground à Berlin-Ouest qui va donner à Depeche Mode cette identité plus dure qui demeurera indélébile. Je vous parlais de Einstürzen und Neubauten. Voici un titre de 1989. C'est un peu plus tardif, hein, c'est l'année de la chute du mur. Extrait d'un album du groupe qui s'appelle Haus der Lüge, la maison du mensonge. Un enregistrement, vous allez l'entendre, traversé par des sonorités de bris et de destruction. Ihr Leben, die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden auf einem Küchenhocker sitzt ein Irrer, der glaubt, alles, was er anfassen kann, seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss, Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum, betrachten die Wände aufmerksam, suchen da. Könnten nicht mal ihren Namen ziffern auf ins nächste Geschoss. Welches Umfunde nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann. Lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kacheln sie die Böden an, die darf keiner ran. Viertes Geschoss. Hier lebt der Architekt, der geht auf in seinem Plan. Dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Es reicht von Wunder bis Fundament. Und vom Fundament bis zum Firma. Im Erdgeschoss. Befinden sich mit Türen, die führen direkt ins Freie oder besser gesagt in den Grundstein. Darin warten der Wählung, 12 Gruppe Beton, Grundstein Lego. Grundstein Lego, Lüge, Lüge, Lüge. Gedanken, Gäste sind gestrichen in Kopfhöhe braun, in Farm, katholisch, violett, zur besseren Orientierung. Dachgeschoss. Außer ein Schall im Dachschild sitzt ein alter Mann auf dem Boden, tote Engel verstreut. Zwischen den Knien hält er ein Gewehr, zielt auf seinen Mund. Und in den Schild, durch den Schild und aus dem Schild raus den Teufel bringt das Geschoss.
Tell me why.
La voix malsaine du jeune Nick Cave, vers l'âge de 25 ans à peu près, tout en éructation, vous l'avez entendu, et puis les syncopes haletantes comme nauséeuses et les accents dissonants de ses accompagnateurs, les Bad Seeds. From Her to Eternity a été enregistré en 1984 au studio Hansa, dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin-Ouest, là même où David Bowie avait enregistré l'album Heroes, 7 ans plus tôt. On entend ce titre dans le film de Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, Les ailes du désir, sorti un peu plus tard en 1987, un film d'ailleurs coécrit par le romancier et poète autrichien Peter Handke, récent lauréat du prix Nobel de littérature. On voit d'ailleurs dans ce film Nick Cave jouer son propre rôle dans un Berlin où flotte une atmosphère désolée et en même temps onirique. En ce temps-là, Nick Cave est sur scène dans un état assimilable à la possession démoniaque. Il se met dans la peau de personnages effrayants, bouffons sardoniques ou prêcheurs évangélistes fous. Parfois, ça se rejoint d'ailleurs. Un de ses accompagnateurs au sein des Bad Seeds est un musicien allemand, le berlinois Blixa Bargeld. Ce garçon n'est pas le premier venu, il a été renvoyé du lycée, il a fui son foyer et c'est un non-guitariste revendiqué qui joue quand même de la guitare. C'est une des conséquences du mouvement punk qui a vu des amateurs incompétents prendre d'assaut certaines scènes animées par un feu irrépressible, ce besoin brûlant d'exister malgré ses tares ou peut-être à cause de ses tares. C'était donc le cas de Christian Emmerich alias Blixa Bargeld qui cisaillait alors sa guitare au sein de Einstein de Neubauten, qu'on a entendu tout à l'heure, et aussi donc des Bad Seeds de Nick Cave, auxquels il appartenait parallèlement. Son désespoir enragé avait entraîné Bargeld du côté d'un dadaïsme provocateur et destructeur. Il est alors un de ces nombreux dandys marginaux qui survivent plus qu'ils ne vivent à Berlin. Il travaille comme barman ou encore comme jardinier dans un cimetière. Il faut dire que la vie à Berlin-Ouest est dure, bien plus dure en ce temps-là qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. À ce sujet, le hasard de mes recherches sur la toile, quand j'ai préparé cette émission, m'a fait découvrir le témoignage très éclairant d'un journaliste new-yorkais du nom de Peter Hockenos, qui suivait alors des études de sciences politiques, donc dans le Berlin-Ouest du début des années 80. Il a publié il y a 2 ans un livre, à ma connaissance inédit en français, qui s'appelle Berlin Calling, soit une histoire de l'underground artistique berlinois à partir du début des années 60. Alors je vous résume une partie de son témoignage consacré aux conditions de vie des jeunes berlinois marginaux de l'Ouest. Alors la plupart de ces jeunes vivaient dans des appartements collectifs, entre des terrains vagues, vestiges des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Les immeubles étaient délabrés. Quand on montait l'escalier, il y avait des trous dans les murs. Pas de salle de bain dans les chambres qu'on occupait. Et pour ces besoins, il y avait des WC collectifs. On se chauffait au charbon dans des poêles en céramique. Mais comme l'isolation était strictement inexistante, on se gelait sérieusement en hiver. Les hivers sont rudes là-bas. Et la pénurie de logements était cruelle. Les gens faisait la queue pendant des heures à l'aube pour acheter la première édition du journal où paraissaient les annonces immobilières. Et pendant qu'on attendait, on envoyait un comparse bloquer une cabine téléphonique. Alors on courait lui apporter le journal pour être sûr d'être le premier à appeler le numéro de l'annonce afin de courir être le premier à visiter l'appartement en location qu'on espérait avoir. Alors il y avait très peu de choses à acheter dans les supermarchés. On s'achetait des pâtes et une boîte de sauce tomate, ça faisait la semaine. Et la seule offre de restauration, c'était le kebab, enfin le graillon du coin. C'était l'Ouest, capitaliste, pas du tout l'Est. Mais il y avait de bons côtés. Les loyers de ces logements sommaires étaient très bas, et donc il suffisait pour un jeune berlinois bohème, comme vous l'imaginez, pas du tout bourgeois, de bosser quelques semaines pour se payer un loyer de plusieurs mois, ce qui lui permettait de se consacrer à la musique, la photo, la peinture, enfin ce qu'il voulait. Et puis, pour gagner quelques sous, pour trouver un job, on se rendait à 7h du matin à une espèce de pôle emploi version préhistorique. Là, on vous donnait un papier avec une adresse et une mission. Tu vas à telle adresse couper du bois, ratisser les feuilles mortes, ranger des médicaments sur les étagères d'un entrepôt. Voilà. Et selon le témoignage de Hockenos, l'ambiance n'avait rien de sympathique. Les marginaux qui vivaient dans ces squats détestaient les étrangers, les touristes, et leur aboyaient dessus, les menaçaient carrément quand ils passaient devant. Ça fait rêver Berlin-Ouest dans les années 80. Et pourtant, Dans cette atmosphère lugubre, à cause d'elle peut-être, la créativité a été immense et la liberté totale. Beaucoup de musiciens ont voulu aller là-bas pour absorber cette ambiance intense où rien n'arrêtait personne. Bah pourquoi ? Parce qu'il y avait strictement rien à espérer. Après Depeche Mode, le groupe londonien Wire a enregistré un remarquable album en 1987 au studio Hansa de Berlin, tout près du mur. Cet album s'appelait The Ideal Copy et ce son traduit bien cette ambiance d'angoisse, de dureté et de rêve quand même, malgré tout. Voilà, ce titre de Wire s'appelle Ahead et vous écoutez Very Good Trip sur France Inter, consacré ce soir, comme toute la semaine jusqu'à jeudi, à Berlin.
Special. Very Good Trip sur France Inter.
Station, comme la gare de Zoologischer Garten, la gare du jardin zoologique, dans le quartier de Charlottenburg à Berlin-Ouest, la grande gare monumentale de la ville. Le temps est un train qui transforme l'avenir en passé. Il vous laisse planté à la gare, le nez collé contre la vitre. Une allusion évidente de cette chanson du groupe U2, bah oui, c'était lui, à la situation nouvelle créée par la chute du mur. Désireux de se réinventer de fond en comble afin de ne pas être balayé par les vents de l'histoire, le groupe dublinois avait décidé de se rendre à Berlin à la fin de l'année 1990, soit un an après l'événement, afin d'enregistrer son nouvel album. Dans le studio Hansa, la même où David Bowie et Iggy Pop étaient passés en 77, suivi quelques années plus tard par Nick Cave et Depeche Mode. Celui-là même qui avait guidé David Bowie dans la découverte des nouvelles musiques électroniques nées en Allemagne, Brian Eno était là, aux côtés du Canadien Daniel Lanois, pour guider U2 dans ce virage à 180 degrés vers une musique où tout, voix, instruments et textures, s'est retrouvé enveloppé dans des couches de bruitage électronique au point de rendre le son de U2 méconnaissable. Le résultat, fruit d'une métamorphose violente où le groupe a failli laisser sa peau, sera l'album Achtung Baby, paru fin 1991. La tournée qui s'ensuivra, intitulée Zoo TV, évoquera très clairement la récente chute du mur, puisque au-dessus de la tête des spectateurs, suspendu comme une baudruche de fête foraine élevée dans les airs, on verra se balader une Trabant, hein. Les Trabant, vous savez, c'était ces petites voitures manufacturées en Allemagne de l'Est qui s'étaient massivement présentées au point de passage de Berlin dès la chute du mur. Alors les choses ont changé très vite dans un Berlin réunifié où l'ambiance raréfiée des squats et d'un underground vivant dans une bulle au milieu d'une sorte d'ambiance angoissante a laissé la place à autre chose. Une période convulsive où des musiciens et des styles très différents ont commencé à se télescoper et à fusionner. Un exemple, eh bien celui du groupe Atari Teenage Riot, où se sont unis trois Berlinois. Alex Wilke, alias Alec Empire, un DJ qui était passé très jeune par le hip-hop et les rave parties et qui avait une vision de la musique politiquement très radicale, anti-commerciale et anti-société de consommation. Il y avait aussi Hanin Elias, c'est une jeune femme d'origine syrienne, et aussi Carl Crack, un rappeur noir venu d'Afrique du Sud. Un trio détonnant et crépitant sur scène, comme en témoigne ce titre, Speed, extrait du premier album de Atari Teenage Riot, Delete Yourself, Effacez-vous, c'était en 1995. Voilà, Atari Teenage Riot, c'était Berlin il y a 25 ans et c'est sur France Inter ce soir.
Let's go.
Rammstein, un titre signé par le groupe du même nom en 1995, dans un album qui a pour titre Herzeleid, un peine de cœur. Rammstein, c'est un groupe dont le succès mondial immense s'est affirmé à la fin des années 90. Ses racines plongent dans l'Allemagne communiste de l'Est. Son fondateur, le guitariste Richard Kruspe, a connu cette période inimaginable aujourd'hui où le rock à l'Est était soit carrément interdit comme symbole de la décadence et de la dépravation occidentale. On était obligé de se procurer des disques et des cassettes sous le manteau, soit autorisé, mais à condition que les paroles des chansons incarnent des valeurs positives conformes aux dogmes communistes imposés par la société. Kruspe avait rencontré le chanteur Till Lindemann au sein d'un groupe de rock autorisé, donc en RDA, et dont les paroles des chansons étaient strictement contrôlées par la censure. Et Lindemann a même, c'est intéressant à souligner, joué dans un groupe punk officiel financé par le gouvernement communiste de l'Est avant la chute du mur. Et c'est Kruspe qui a initié Lindemann et ses camarades ce mélange de métal et de musique industrielle qui était alors inventé de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, par le groupe Ministry. Et c'est Lindemann, qui était le fils d'un poète et auteur de livres pour enfants très connu en Allemagne de l'Est, qui a poussé le groupe à aborder dans ses chansons tous les sujets qui gênent dans l'histoire de l'Allemagne. Exaltation de la guerre, souvenir du nazisme, bien sûr, présence oppressante de la puissance américaine, ça passait par la mise en scène d'instruments de torture, d'accessoires sadomasochistes, c'était mis en scène dans des spectacles à la fois grandioses, dominés par d'amples effets pyrotechniques et grinçants, voire grotesques. Avant de se quitter, je voudrais vous faire entendre des productions berlinoises qui donnent une idée de la singularité et de la variété des musiques produites dans ces années-là. Pour commencer, un titre d'électropop très dansant, à chaque temps très appuyé, ça donne un côté martial et joyeux à la fois. Il s'agit d'un duo de musiciens de l'Est, du quartier berlinois de Mitte, très très branché aujourd'hui, qui s'appelait Gene Steam. Et le titre c'est Keine Melodien, ça remonte à l'année 2000. Et après il y aura deux chansons signées par deux groupes qui ont marqué en profondeur l'électropop alternative, pas seulement allemande, mais mondiale, grâce à un style très personnel, poétique, j'allais dire aquatique, il y a un peu de ça, élégant et swingant en tout cas. La caractéristique d'ailleurs de tous ces groupes que vous allez entendre maintenant, c'est qu'ils ont été tous diffusés par un label discographique qui est né à Berlin-Est, qui s'appelait Kitio, qui a été d'ailleurs le premier qui a diffusé la musique de Rammstein. Donc le premier groupe que vous allez entendre après Gene Steam s'appelle Two Rococo Rot, c'est un trio qui est né à Berlin-Est au milieu des années 90, et le second, Tarwater, c'est un duo qui est apparu toujours à l'Est la même année. Les musiciens de ces deux groupes avaient connu la clandestinité dans les années 80, la censure et la surveillance de la police. Alors il me reste plus de temps pour vous raconter un peu leur histoire, hélas, puisqu'il faut quand même que je vous laisse suffisamment de temps, justement, pour que vous puissiez les écouter. Voilà, tout de suite, Gene Steam.
Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodie. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodie. 2, 3, 4. Ich singe keine Melodie. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodie. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodie.
Sayas.
Thank you. 7 ways to fake a perfect skin.